vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Merveilleux Monsieur Bébé, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Cette femme qui le tient à la main et qui va le mener à cette chambre, une fois qu'il y sera, il ne pourra plus en sortir. Peut-être qu'elle a enfermé chez elle de nombreuses personnes, de nombreux enfants. Comme il aimerait être loin d'ici, à Lyon, son quartier, Il n'aurait jamais dû aller avec cette femme. C'est une folle, dangereuse. Elle va sûrement lui broyer les jambes, comme elle a fait à son fils. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Il sent son regard. La maison est éloignée de tout. Il n'y a pas de domestique. Il est perdu. Même s'il crierait, ça ne servirait à rien. Elle a ouvert la porte de la chambre. Il se dit que s'il ne fait rien, il est perdu. Il lui dit, vous ne m'aimez plus? Il vient de parler. Et sursaute, cette voix la remet dans la réalité, si l'on veut. Son visage devient plus doux, elle sourit. Et, attendrie, elle lui dit, « Bien sûr que si, que je t'aime, mon Denis. » Elle lui dit, « Moi aussi, je vous aime beaucoup. » Elle est émue, elle le prend dans ses bras. Elle lui dit, moi aussi. Il lui dit, j'ai faim et il faut que je rentre à Lyon. Elle lui fait, oui, bien sûr, mon chéri, que je suis bête. Pourquoi t'ai-je mené dans cette chambre? Ah oui, parce que tu avais mal à la tête. Il lui dit, ça va mieux maintenant. Merci. Elle lui sourit. J'en suis satisfaite. Viens, allons prendre le thé. Et il la suit. Il lui dit, j'ai cru que vous étiez fâché contre moi. Elle lui fait, moi? Pas du tout. Elle l'a amené au salon. Il a compris d'instinct qu'il ne faut pas lui parler de ce qui s'est passé, parce qu'elle risquerait de redevenir cette cruelle femme qui enferme les gens. Elle le fait asseoir devant une vieille top box. Je vais te chercher le goûter, mon chéri. Il sent la clé dans sa poche. Il ne sait pas quoi faire. Il décide de la garder. Elle revient avec le thé. Et fait le service. Tiens, merci. Puis s'assoit en face de lui. Il lui dit, je vous aime plus que tout au monde. Pour moi, c'est un vrai conte de fées d'être aimé par vous. Il cherche à l'attendrir pour qu'elle oublie tout ça et qu'elle le ramène à Lyon sain et sauf. Elle lui dit, moi aussi, tu es un garçon délicieux et tu as vite appris. Tu sais manger proprement maintenant et tu parles de plus en plus mieux. Et il demande, si j'étais avec des gens comme il faut, est-ce que ça pourrait aller? Elle lui fait, pour un garçon de ton âge, oui, bien sûr. Pour, disons, des examens général, non. Tu ne sais pas encore assez de choses. Il essaye de la distraire pour qu'elle oublie tout ça. Parce qu'il a peur. Il a peur. Il sait l'instinct. Il se rend compte. Qu'il faut plaire. Que pour lui c'est vital. Et que plaire, ça a une force énorme. Il lui dit, mais vous m'apprendrez, j'aime savoir beaucoup de choses possibles pour être digne de vous. Elle lui dit, comme c'est gentil. Il lui dit, vous êtes la seule personne qui m'aimait. Est toute heureuse et l'embrasse sous la joue. Il sent que c'est gagné. Elle a tout oublié. Il est sauvé. Après le goûter, il est allé à la chambre se changer. Remettre ses hardes en se disant qu'il ne remettra plus jamais celle-là. Dommage. Il a mis la clé dans la poche de son pantalon. Une fois dans la voiture qu'il ramène à Lyon, il se sent gêné de ne rien pouvoir faire pour ce pauvre jeune homme blessé. Que faire? S'il la dénonce, elle saura qui c'est. Elle risquerait de se venger, cette folle. Il regarde le trajet que fait la voiture et qu'il fera pour la dernière fois. Dommage. J'étais près du but. Elle m'avait présenté des gens qui connaissaient les francs blancs. Elle m'aurait éduqué. J'étais tout près du but. Arrivée à Lyon, elle a arrêté la voiture vers le quai Saint-Vincent, à côté de la passerelle. Elle l'embrasse et lui dit, à demain mon chéri. Elle lui dit, oui. Il sort de voiture comme un sort d'un fourgon de la police. La voiture s'est éloignée. Il se met à courir pour retrouver sa rue. Il se décide que pendant quelque temps de ne plus traîner dans le coin. Lorsqu'il rentre chez ses parents, il cache la clé sous son grabat. La journée, lorsqu'il est dehors, il a changé de direction. Il va du côté des quais du Rhône jusqu'à l'Opéra. Il va s'asseoir sur une pierre, place Louis Pradel. Il se trouve près d'un garçon d'à peu près son âge. Il est mince, comme les enfants de son âge, cheveux châtains. Tête ovale et maigre, avec de grands yeux bleus profonds. Et habillé d'un pantalon trop court pour lui, un vieux jean et un t-shirt qui a été blanc et qui lui va qu'à la taille. Ses cheveux sont tombants, châtains et raides. François, qui s'ennuie car il n'a plus les après-midi avec la femme, voit le garçon et lui dit « Salut, tu es du quartier ?» L'autre lui dit « Oui, rue Sainte-Catherine, et toi ?» Moi, montée de la grande côte. Qu'est-ce que tu fais ? Le garçon lui dit. Rien, mes copains ne sortent plus. Parce qu'il paraît que c'est dangereux de sortir. On dit que l'on enlève les enfants pour leur prendre leurs organes. Moi, je crois pas à tout ça. C'est de la connerie. Et pour nous empêcher de sortir. François lui dit. Moi, j'y crois. Mais je sais me défendre. Comment ? En étant gentil. En disant des choses qui flattent l'autre. Une folle a voulu me séquestrer. Eh bien, je lui ai dit que je l'aimais et a fait tout ce que j'ai voulu. Le garçon lui dit, une vieille, elle voulait te prendre tes organes. Ou sûrement me prendre en entier. L'autre lui dit, ah, je comprends, elle aime la chair fraîche. Moi, j'aimerais bien. Dans ma rue, il y a des putes. Y'a que ça, bon Dieu. Si elle voulait me faire un câlin, je ne dirais rien. Mais elle n'aime même. Elle n'aime pas que je reste près d'elle. Elle dit que je les gêne. François lui demande. Tu t'appelles comment ? Ou tu réponds. Adrien, et toi, François ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que font tes parents ? Adrien lui dit. J'ai juste ma mère, elle est serveuse dans un café, et toi ? Moi, mon père fait de la radio, à Radio C, mais il le fait bénévolement, il ne gagne pas d'argent. Ma mère, elle ne fait rien, elle sait rien faire. Alors, elle me demande, et comment vous vivez alors ? Je crois que mon père se débrouille. Il se taise un moment, puis Adrien lui dit, « Va faire un tour ? Oui, si tu veux, où ? Moi, je traverse le Rhône. » Et je vais du côté du parc de la Tête d'Or, François lui demande. C'est bien là-bas ? Oui, en fait, ça permet de demander des choses. On te donne des cacahuètes, des bonbons, des trucs comme ça. Et même, des fois, tu peux faire du pédalo. C'est chouette, le pédalo. Les gens dans le parc sont plus sympas, parce que moins stressés, et puis ils jouent aux gentils, parce qu'ils promènent leurs gosses dans tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de vieux qui aiment bien les enfants. Là, si tu sais leur tirer les larmes, tu as tout ce que tu veux. Ils se laissent. Ils se lèvent et disent, allez, on y va. Traverse la rue et prennent les quais qui est en face de l'opéra pour prendre le pont. Le pont est en mauvais état, il bouge un peu, il y a des trous sur le sol, les gens se dépêchent pour passer, les voitures n'osent pas le prendre. Tous les ponts du Lyon sont en très mauvais état. Le Rhône est gris, il transporte des tas de troncs d'arbres, des encombrants, même des voitures, et souvent sont accrochés ou saletés des corps d'hommes, de femmes, qui se sont noyés ou que l'on a jeté à l'eau pour s'en débarrasser. On ne fait plus attention à ces corps, il y en a trop. Et puis pour la plupart, c'est des corps de pauvres, donc des gens sans importance. Sur les berges, il y a des campements de SDF. Ils font des abris avec de vieilles couvertures, du carton, du plastique. Ils font du feu, amènent la terre. Habillés en harde, assis, à côté de tout ce qui est leurs affaires personnelles. Il y a à côté d'eux de jeunes anards qui jouent de la guitare ou se droguent. Des putes de tout âge et sexe. Ça va de la maternelle à la maison de retraite. Des déshérités, des déprimés qui veulent en finir. Du voleur aussi. La police n'ose plus descendre car ils ont peur de ces fous furieux qui tuent. Un policier a eu, lui, le courage de descendre. Il était déchiqueté et puis on a retrouvé son corps mangé. Lorsqu'on l'a retrouvé, il ne restait plus qu'un bout de tête ensanglanté, à moitié mangé et un pied, tout près de ses vêtements. Ils arrivent au parc de la Tête d'Or, à l'entrée principale. C'est la première fois que François va dans ce coin. Il le trouve très beau, de belles maisons, immeubles, les gens semblent mieux habillés. Il fait soleil, un peu chaud. Il y a du monde dans le parc, des gens qui marchent tranquillement ou sont assis. François trouve ça très joli. Le lac lumineux au milieu de cette verdure éblouissante. Ils font le tour du lac. Il y a des bancs, des pédalos, des enfants qui donnent du pain aux cygnes. Adrien voit un vieux monsieur en par-dessus, gris, cheveux blonds, distingué. Il a une canne à la main et près de lui un petit garçon dans les 5 ans. Le petit garçon est blond, très joli. Il a un manteau marron. Adrien lui demande, « Monsieur, pouvez-vous me donner quelque chose? J'ai faim. » Le vieux monsieur lui dit, « Bien sûr, mon petit. » Il sort de sa poche un paquet de cacahuètes qu'il donne à Adrien. Le petit garçon lui dit, « Mais, c'était pas des singes. Lui, c'était pas un singe. » Le monsieur lui dit, Je le sais. Malgré qu'il soit mal habillé et sale, c'est un humain. Mais tu dois être compatissant avec eux. Surtout avec les humains qui te sont inférieurs. Tu comprends, mon petit? La bonté te rehausse, car elle montre que tu as les moyens et que tu es au-dessus de celui qui te quémande. Et ça te privilégie. Tu n'es pas comme lui. Tu es au-dessus de lui, tu comprends? C'est bon pour nous. François a envie, c'est de dire à ce vieux, non, tu le prends pour un rien, il en a honte, et il est furieux, mais il a très faim, et veut les cacahuètes. Qui a son dit, mais les singes ne sont pas pareils, eux, nous font rire, et puis, ce ne sont pas des rien de va-nu-pied. Un singe, ce n'est pas un pauvre. Il est au-dessus des pauvres. Le vieux tend le paquet à Adrien. Tiens, mon petit. Merci, monsieur. Le monsieur s'éloigne. François lui dit. Quel con, celui-là. Adrien lui dit. On s'en moque. Du moment qu'on en a ce que l'on voulait, il ouvre le paquet. Il en donne une poignée à François, qu'il met dans sa poche. Il la mangera plus tard. Tout en marchant, il mange. Il arrive devant un petit manège. Adrien lui dit, ça c'est pour les ploucs. François a envie de pisser. Il voit une urinoir. Adrien lui dit, qu'est-ce que tu fais? Je vais pisser? Ne va pas là-dedans. Il y a des vieux qui demandent que ça. Des bourrés de vieux trous du cul qui ne pensent qu'à ça. Viens, on va aller dans un couloir. Tu pisseras plus tranquillement. François dit, quel coin! Et il va pisser contre un arbre. Marchent pendant un bon moment, vont voir les bêtes. Ils vont jouer au ballon sur la pelouse aux ébats avec une bande de ploucs, surveillés par leur mère, qui ne cesse de leur crier, de ne pas trop courir, de faire attention, de ne pas salir. Se sont offert une glace. François dit, j'aimerais bien faire du pédalo. Adrien lui dit, viens, on va voir. sont allés chez le loueur de pédalo, un homme d'un 50 ans, petit maigre, cheveux gris, habillé d'un pantalon gris et d'un t-shirt violet. Adrien lui dit « Salut !»«
Salut !»«
On aimerait faire du pédalo. » L'homme lui dit
« J'en ai. C'est 100 balles. »
Adrien lui dit « On n'a pas pour gratuit ?»«
Non. »
« Soyez chic. Pourriez bien vous le prêter. On ne va pas vous le voler, votre pédalo. Allez, soyez chic. »
« Non, ça n'est pas question. »
Mais pourquoi?
Parce que j'ai besoin de 100 balles.
Allez, soyez chic. Tu parles pour 100 balles?
Non.
Espèce de... François lui met la main sur le bras et dit au loueur. Monsieur, je vous en prie. C'est moi qui aimerais faire du pédalo. C'est la première fois que j'en ferai, et puis ça ferait si plaisir. J'aurais un bon souvenir.
L'homme lui dit, bon, et bien d'accord, prends celui-là.
Merci, monsieur.
Mais rentrez pas trop tard.
Promis.
Et prennent le pédalo. C'est un peu dur pour eux de pédaler parce qu'ils sont petits. Mais ça va.
Rien lui demande. Mais... qu'est-ce que tu as de plus que moi?
François lui dit.
Est-ce que j'ai su le séduire, ce salaud?
C'est formidable.
De se trouver attiré. Que les autres soient attirés par vous.
Le lac est lumineux. D'étoiles qui scintillent. Ils entendent moins le bruit de la ville. Ils ne voient plus de la berge que les abords.
François aimerait que ça durera toujours. Toujours. Toujours.
Adrien lui dit, nous allons aller dans l'île.
L'île?
Ce mot magique qui fait rêver tous les enfants. Une île. C'est un pays.
Un pays.
Où on vit en dehors de tout.
Où l'on...
mais... au secret du... dans le secret des mondes.
Les enfants rêvent d'île, mais ils n'en voient jamais. Et là,
Adrien lui dit, oui, une île, toute petite. Et pas comme tu crois.
S'approche de l'île. Accoste devant des marches qui montent jusqu'à la berge.
Sort du pédalo.
François est déçu. Cette île, elle est morte.
Oui, cette île. Elle est morte.
Il y a une plateforme
un monument idiot, triste, triste bled. On a vite fait le tour de cette île. Et lui dit, c'est ça l'île? Oui, il y a un tunnel qui mène à la berge. Comme le tunnel pour aller en Angleterre. Il le lui montre. C'est pas grand chose. Et on entend le bruit de l'extérieur. Le tunnel a les murs carrelés, blancs. Il n'est pas très grand. C'est vraiment très décevant tout ça. Ils sont retournés vers le loueur pour lui rendre son pédalo et on continue à marcher. Ils ont pris un petit chemin boisé et s'assoient sur un banc. Adrien lui dit, on a passé un bon moment ici. François lui dit, oui, des cacahuètes, une glace et le pédalo. C'est bien. Après, c'est un peu reposé et lu des BD qui étaient dans une poubelle à papier près du banc. Ils sont allés, se sont levés pour aller vers la sortie. Tournant, ils entendent du bruit. Ils se trouvent nez à nez devant une bagarre. Deux hommes habillés de costumes noirs, grands, forts et blonds, tabassent un homme en costume gris, jeune, blond. Les deux garçons sont comme hypnotisés par la bagarre. L'homme en gris est à terre. Les deux hommes continuent à le tabasser. Le mangri ne bouge plus.
Ton sang est aussi rouge que le mien.
Les deux hommes se relèvent. Et un des hommes sort de sa poche un revolver. Il a tiré au visage et à la tempe de l'homme. Le sang gicle. L'homme, un dernier sursaut, soulève une de ses mains et lâche à terre plus loin quelque chose et retombe mort à terre. L'objet était jusqu'au pied de François. Les deux hommes, tout à coup, voient les deux garçons. François, d'instinct, ramasse le jet en métal. Les deux hommes le voient le faire. Ils courent à eux. Les deux garçons paniquent et se mettent aussi à courir, 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 courir. Ils ne savent pas où aller. Ils courent, ils courent. François court dans les pelouses, Adrien aussi. François va vers un muret qui a une barre, qui a des barreaux. Il veut sortir du parc. Vite, il monte sur le muret, arrive à sauter les barreaux. Adrien en fait autant. Malheureusement, les deux hommes continuent à leur courir après. François se retourne et dit, ils nous ont suivis. Vite, ils traversent le boulevard, se trouvent sur le quai, va vers la montée des soldats. Les deux hommes les suivent. Adrien lui dit, ils vont nous flinguer, nous sommes perdus. Vite. Ils courent de plus en plus vite. Le plus vite qu'ils peuvent. Les deux hommes se rapprochent d'eux. La rue est déserte. Nous sommes perdus, dit Adrien. François voit un arbre. Non. Les rochers qui va de l'autre côté d'un muret d'une propriété. Il crie, l'arbre ! Vite ! Il grimpe à l'arbre. Adrien le suit. Les deux hommes sont près de l'arbre. Il y a un qui vise. Mais trop tard, les deux garçons sont de l'autre côté. Ils ont sauté en fermant les yeux. Se sont retrouvés à terre, dans l'herbe, sans se faire de mal. Les enfants ne se font jamais mal en tombant, comme des adultes. Leurs os ne sont pas encore soudés, les rendent plus souples. Ils regardent où ils sont, un grand parc avec de grands arbres. Il y a une vieille maison qui semble abandonnée, grise, volet fermé. Adrien demande, qu'est-ce que l'on fait ? François lui dit, papa, attendre. Après, nous sortirons d'ici. Et comment ? François lui dit, par le portail, tiens. Allez, on va voir. Ils vont vers le portail qui est très grand et rouillé. Il est fermé avec une chaîne. Il y a un gros cadenas rouillé aussi. Adrien lui dit, alors, François dit, comme l'on est venu, il regarde les arbres. Il y en a un près d'un mur. Il le grimpe. Il voit que ça donne sur la rue. Et malheureusement, il y a les deux hommes qui attendent. Adrien. Fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? François lui dit, il faut attendre. Ils descendent de l'arbre. Adrien lui dit, c'est chiant, on va attendre combien de temps ? Je sais pas. Ils marchent tristement en faisant le tour de la maison. Adrien demande, qu'est-ce qu'on fait ? François lui dit, je sais pas. Il hausse les épaules et dit, allons, on va à l'intérieur de la maison, c'est peut-être intéressant. Et il monte le perron pour aller à la porte de la maison. François donne un coup de pied à la porte. Qui s'est ouverte. Il dit, elle n'était pas fermée. Et ils entrent. Ça sent le renfermé. L'humidité est bien autre chose indéfinissable. C'est sombre. Adrien dit, ça pue. Une fois qu'ils sont habitués au sombre, ils voient que c'est un couloir où il y a des escaliers. C'est poussiéreux. Il y a des toiles d'araignée, des meubles cassés, des détritus. Adrien lui dit, je suis sûr qu'il y a des rats. François dit, allons en haut. Et ils montent les escaliers de pierre usés. François dit,
C'est bizarre. Tous ces objets cassés à terre. Dans le couloir du haut, les portes des pièces sont ouvertes et délabrées. Il reste quelques meubles sales, cassés, tachés. Ils entrent dans une pièce qui est une chambre. Tout est sans dessus-dessous. Les draps ont des taches sombres. François voit à terre un vieux couteau usé, rouillé. Il le prend. À certains endroits, il y a des taches noires, peut-être du sang. Sans noirci. François lâche le couteau. Il va à la fenêtre et par les fentes des volets, il voit que les deux hommes attendent. Rien demande « Qu'est-ce qu'on fait ?» François lui dit « Rien ?» Ils s'assoivent sur une chaise. Adrien, en face de lui, Adrien lui demande « Qu'est-ce que c'était que tu as pris à terre ? La chose que l'homme a fait tomber ?» Dit François, il sort de sa poche l'objet et voit que c'est une espèce de broche qui représente un soleil stylisé. Il dit, c'est une babiole. Fais voir, il lui montre. Adrien lui dit, si c'est ça qu'ils veulent, on n'a qu'à le leur donner. François lui dit, c'est peut-être ça, mais s'ils savent que l'on a vu et touché, ils vont peut-être vouloir nous supprimer pour que l'on ne dise pas ce que l'on a vu. C'est peut-être quelque chose de secret. Et puis, ils ont tué l'homme qui avait eu ça. Alors, Adrien dit, oui, peut-être. Une secte secrète, François lui dit. Oui, Adrien demande, que faire? François lui dit, attendre. S'ils ne viennent pas nous chercher ici, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire. Parce que si, ils l'auraient fait autrement depuis longtemps. Alors attendons. Et ils attendent. Puis Adrien demande, qu'est-ce qu'on fait? Il commence à se faire tard. Il se lève et sort de la pièce. En passant devant le couloir, il voit une salle à manger où la table est encore pleine de restes de repas. C'est poussiéreux, pleine de toiles d'araignée. Adrien fait, c'est dégueulasse. François dit, c'est bizarre.
nous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Merveilleux Monsieur Bébé. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.